Les périodes incertaines comme celles que nous traversons amènent leur lot d'inquiétudes, de croyances. En ces temps de crise sanitaire, le Mystère des Cartes vous propose d'entrouvrir les portes de l'hôpital. Lieu de science, de rationalité, des pratiques inattendues s'y déroulent pourtant, vous allez l'entendre. Ce n'est pas toujours repérable pour un regard extérieur, elles sont parfois cachées au fond d'un couloir de service, d'une salle de pause. Pour lever le voile sur ces pratiques, nous avons joint Marie-Christine Pouchel.
Bonjour madame.
Madame Pouchel, vous êtes anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Depuis les années 90, vous étudiez entre autres le milieu médical. Vous avez travaillé sur les pratiques magiques à l'hôpital. Madame, quelles pratiques de ce type avez-vous pu observer dans le milieu hospitalier ?
Je n'ai pas observé de tournage de table, d'écriture automatique. Les gens le font peut-être chez eux, mais enfin, à l'hôpital, je n'ai pas observé de comportement de ce genre. J'ai observé des comportements rituels chez les soignants, chez les médecins, chez les chirurgiens, mais je n'ai pas observé d'action du médium tel qu'on peut en voir dans un cabinet de médium, bien sûr que non. Alors peut-être la nuit, dans certains tours de garde, ça peut peut-être arriver, quand entre soignants, on se tire les cartes, mais c'est le maximum qu'on puisse faire dans un milieu qui n'est pas propice quand même, c'est pas fait pour ça.
Et pourtant, il existe des comportements que l'on pourrait qualifier de magiques en certaines situations.
On peut dire qu'il y a des comportements qui relèvent de comportements magiques, en effet, et qui sont dus aux dimensions émotionnelles qui sont particulièrement fortes dans des milieux à risque. Dans des milieux à risque, les hôpitaux, parce que quand même, on risque sa peau bien souvent, surtout en chirurgie. Et en réa, on est en réa. Pourquoi ? Parce qu'on a une ou plusieurs défaillances vitales, ce qui veut dire que là aussi, la vie et la mort sont sur une ligne de crête qui est très étroite. Voyez ? Donc ça suscite des comportements qui sont en effet magiques. Maintenant, ce n'est pas forcément l'évocation diabolique avec, je ne sais pas quoi, le pacte signé avec le diable, ce n'est pas ça. C'est autre chose. La magie, c'est beaucoup plus simple que ça.
Alors, quelles sont les pratiques rituelles que vous avez pu observer en tant qu'anthropologue au sein des hôpitaux ?
Alors, je peux parler par exemple du prélèvement d'organes et de la définition de la mort, du coup, puisque au fond, les équipes de transplantation ont besoin d'organes très vivants, mais pour le faire, il faut que la personne, celui qu'on appelle le donneur d'organes, soit mort. Alors, le problème, c'est que les organes doivent être vivants, la personne doit être morte. Donc, dans notre culture, car ce n'est pas vrai partout, dans notre culture, on assimile la personne à son esprit, c'est-à-dire au cerveau. Dans la culture chinoise ou japonaise, extrême orientale, on assimile la personne à son esprit aussi, mais l'esprit, on le met dans le cœur. Ce qui fait, par exemple, qu'au Japon, pendant très longtemps, on ne pouvait pas faire de transplantation d'organes, parce que pour ça, il fallait arrêter le cœur à un certain moment, et bien entendu, c'était pas possible, parce que là, on tuait vraiment quelqu'un. Et j'ai pu observer, ça m'a été raconté après, parce que sur le moment, je n'ai rien perçu, un médecin anesthésiste qui, dans sa tête, parlait au mort, sur lequel allait être fait un prélèvement d'organes, pour le rassurer. Et ce médecin m'avait dit, je ne suis pas jeune, donc ne dites pas ce que je fais à mes confrères, parce qu'on va dire que simplement je suis trop vieux et gâteux, première chose. Deuxièmement, lui m'a dit qu'il sentait parfois des présences dans ses corps morts, mais pas toujours. C'était pas constant, donc c'était pas une théorie qu'il avait. Quand il sentait quelque chose, il faisait, et donc là, il s'adressait aux morts pour le rassurer, etc. On est sur cette frange de perception sur laquelle la médecine n'a pas de réponse et par rapport auquel les soignants, quels qu'ils soient, sont seuls avec ça. Parce que ça ne se peut pas se raconter dans un milieu médico-scientifique. Quelquefois, il y a aussi des chirurgiens qui, ayant prélevé les organes, vont à l'église prier pour le mort. Mais c'est toujours des actes individuels, parce que collectivement, le discours n'est pas celui-là, voyez. Et le discours scientifique n'a aucune réponse, sauf à rigoler.
Pourquoi à rigoler ?
Parce que le milieu scientifique et médical est parfaitement dogmatique. Donc, à la fois, éventuellement, ils se construisent eux-mêmes contre leurs propres sensations. Ils sont habitués à ça, les médecins, c'est-à-dire qu'on fait l'impasse sur ses propres sensations, déjà. Et bon, donc, si vous voulez, on est dans un système scientifique dogmatique, dominant, et donc qui s'oppose violemment à tout le reste. Et ça, on n'en est pas sorti. C'est peut-être particulièrement vrai en France, alors que les pays anglo-saxons ou scandinaves sont parfois beaucoup plus empiriques, pragmatiques, et donc ils se servent de ce qui marche.
Et alors, justement, en France, vous avez observé très concrètement des pratiques magiques ?
Par exemple, l'histoire des revenants, ça s'est passé en réanimation. Le jour où, après une toilette mortuaire que j'avais partagée avec les soignants, certains soignants m'ont confié que dans certaines parties de la réanimation, ils ne voulaient pas aller chercher du matériel manquant quand il n'y avait personne dans cette unité, parce qu'ils sentaient des présences. Quelqu'un m'a dit, mais oui, mais dans cette unité, quand il n'y a pas de patient, quand je dois aller chercher un produit, j'ai peur d'y aller, je sens des présences, il y a une sorte de vent. Donc, ça s'est dit beaucoup, mais on était entre infirmières et aides-soignantes. Les médecins n'étaient peut-être pas là, mais les médecins, quoi qu'ils en pensent, ils ne peuvent rien dire, parce que eux, ils sont censés divulguer la bonne parole scientifique. Donc, de toute façon, ils n'en diront quelque chose qu'entre deux yeux, pas collectivement. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça se passe comme ça, ça se dit entre deux portes ou dans des circonstances très particulières. Mais j'ai tendance à dire, et par expérience un peu, que tout le monde le fait, personne ne le dit.
Dans la pratique de soins, à proprement parler, vous avez fait des observations dans des hôpitaux français ?
Il y a eu une émission de télévision qui l'a montré, donc je ne trahis aucun secret, évidemment. Alors à Clermont-Ferrand, donc, aux urgences, ils ont des listes de services de médecins à appeler selon les cas, mais ils ont aussi dans un coin de cette liste deux ou trois toucheurs de feu qui peuvent appeler en cas de besoin quand un brûlé arrive.
Qu'est-ce que c'est un toucheur de feu ?
C'est les personnes qui ont justement hérité soit familialement, soit de quelqu'un, de barrer le feu, d'arrêter le feu. Toucheur, parce qu'il touche un peu, mais il ne touche pas beaucoup. C'est plutôt du magnétisme qu'autre chose. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et eux ne savent pas. Mais pour une brûlure localisée, on va dire, une forte brûlure, deuxième, troisième degré localisée, là, ça marche très bien. Et ça marche très bien sur les brûlures de la radiothérapie, quand on a un cancer, par exemple du sein, et que la radiothérapie brûle les tissus. Et alors là, on rencontre deux sortes de radiothérapeutes, ceux qui acceptent, n'y croient pas, mais acceptent qu'on se serve de ce système-là, des barreurs de feu, et d'autres qui n'y croient pas et ne veulent pas qu'on s'en serve. Mais ça fonctionne très très bien. Moi, je connais plusieurs patients qui n'ont pas du tout eu la peau brûlée après des séances de rayons, alors que normalement, ça devrait être le cas. Et généralement, ils le font gratuitement. Ils ne se font pas payer pour ça. Ce n'est pas un truc donnant-donnant. Et en principe, s'ils se font payer, ils perdent le don. Donc, on reste dans quelque chose qui était très ancien chez nous, qui a disparu depuis très longtemps, qui est que la guérison, c'est quasiment un don de la nature, si ce n'est pas un don de Dieu, mais ça ne se monnaie pas. Alors aujourd'hui, on est très loin de ça, évidemment.
Comment agissent les toucheurs de feu sur les brûlures ?
Je pense à une vieille dame que je connais bien, qui le fait, qui l'a hérité d'une amie de sa grand-mère qui lui avait donné ce don. Elle met la main au-dessus de la zone ou à un centimètre, ou peut-être elle touche quelquefois. Elle ne dit absolument rien. Est-ce qu'elle dit des prières ? Je n'en sais rien. Et elle laisse un moment. Je pense qu'elle l'arrête quand elle sent que c'est fini, mais elle ne sait pas pourquoi. C'est tout. Ce n'est pas sensationnel. Je veux dire, on ne va pas faire venir les caméras de TF1 pour montrer une grande première. Ce n'est pas du tout ça. On ne voit rien. On ne sent rien. Mais ça fonctionne. Et on ne peut pas l'expliquer. Et là, peut-être que la science pourra l'expliquer un jour, d'ailleurs. Mais pour l'instant, quand la science ne comprend pas quelque chose, bien ma foi, elle pense que ça n'existe pas. Mais vous savez, Pasteur, quand il a voulu démontrer l'existence des microbes et la façon dont il n'y avait pas de génération spontanée, personne ne l'a cru. Moi, je n'exclus pas du tout le recours à la médecine académique. Évidemment, j'y ai recours pour moi quand j'en ai besoin. Mais je n'exclus pas non plus le recours à des médecines alternatives qu'on peut appeler magiques si on veut. Maintenant, quelquefois, il y a des aspects un peu magiques en salle d'opération parce que il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a tout un rituel qui n'est pas enseigné à qui que ce soit. mais qui se transmet parce que c'est des milieux où on a peur. Tout le monde a peur en salle d'opération, y compris chirurgien.
Parmi vos études publiées, on peut lire celle sur la chirurgie au Moyen-Âge. Que vous évoque la crise sanitaire que nous traversons en ce moment dans l'histoire ?
Tout le monde va vous parler de la peste de 1348. Dans l'histoire, il y a eu très souvent des épidémies. Alors moi, je n'ai pas particulièrement étudié la peste de 1348. Ce qu'il y a, c'est que, comme d'habitude, il y a un point commun, c'est les riches ont les moyens de fuir les villes, de fuir les lieux de contamination. Soit qu'ils soudoient des gardes-barrières, soit qu'ils ont deviné avant qu'ils avaient les infos, qu'ils sont partis bien avant. Il y a une inégalité sociale devant les épidémies qui est vraie partout, qu'on voit aujourd'hui, mais qui n'est pas nouvelle et qui est malheureusement un réflexe des sociétés qui sont toutes hiérarchisées et très inégalitaires.
Merci Marie-Christine Pouchel pour cet entretien.
Eh bien, merci à vous et au revoir.
C'est Le Mystère des Cartes, le podcast sur la cartomancie entre mystère et imaginaire. D'autres rencontres vous attendent à découvrir sur cette plateforme.